6h-9h le samedi. L'époque.
C'est la nouvelle arme des commerçants pour séduire. L'odorat. Le plus discret, mais aussi le plus puissant de nos cinq sens.
Quand on sent une odeur gourmande, automatiquement le consommateur va être tenté par cette odeur-là.
Boutique, restaurant, banque. De plus en plus de commerces se parfument.
Ici, j'ai toutes mes notes. Ici, c'est mes huiles essentielles qui vont me permettre justement d'exprimer des mots en notes olfactives, en parfum.
Ah, oh, ça pue !
Rentrer dans un bureau où ça sent bon, dans un lieu où on est accueilli de cette façon-là, c'est un plus pour les gens qui y travaillent, mais c'est aussi un plus pour les personnes qui viennent.
Je parle une langue qui est celle de l'odorat, et donc j'essaye de traduire en odeur les mots que j'entends.
Dis-moi ce que tu sens, je te dirai qui tu es. C'est un peu le proverbe à la mode dans le marketing. Associer son nom, son image à une odeur, un parfum, pardon, une signature olfactive qui reflète les valeurs d'une entreprise, l'histoire d'une marque. Ces tendances, tout secteur confondu, de l'horlogerie à l'hôtellerie, du club de foot à la compagnie de taxi, même le journal Le Temps à la sienne. Des effluves qui s'invitent aussi dans les hôpitaux, dans les musées, dans le design. Bref, l'odorat, ce sens longtemps mal aimé, est aujourd'hui chouchouté. Alors pourquoi est-il de nouveau au centre de l'attention? Pourquoi l'a-t-on si souvent négligé? Comment expliquer son réveil, sa revanche? Des questions de l'époque qu'on va se poser ce matin avec Sarah Dirène.
Bonjour Yann.
Didier Bonvin.
Bonjour Yann.
Et notre invité Annick Le Guerrer. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Merci d'être en duplex de Genève. Vous donniez hier une conférence chez le grand parfumeur Théodora. Vous êtes la grande spécialiste de l'odorat et du parfum. Anthropologue, philosophe, historienne. Vous avez notamment écrit Le parfum des origines à nos jours et Le pouvoir de l'odeur aux éditions Édile Jacob. Annick Le Guerrer, vous confirmez, l'odorat, c'est dans l'air du temps.
Tout à fait, c'est tout à fait dans l'air du temps. Et comme vous le disiez, j'ai donné deux conférences chez Théodora, qui est la plus ancienne parfumerie de niche. J'ai parlé des parfums sacrés. Et l'odorat, justement, aujourd'hui, est tout à fait à la mode, alors qu'il a été exclu pendant des siècles. L'odorat passait pour un sens inférieur, trop animal, flairé à 6000 à la bête qui marche à quatre pattes et qui ne parle pas. Il était donc dédaigné des philosophes. Certains, comme Kant, disaient que c'était un sens ingrat, qu'il était inutile de développer. La psychanalyse a repris ces anathèmes, parce que pour Freud, la civilisation ne pouvait se développer qu'au prix d'un effacement de l'odorat. Sinon, nous serions comme les animaux, toujours à la recherche de partenaires sexuels, et nous ne développerions rien d'intellectuel et d'artistique. Donc vous voyez, toutes ces condamnations concernant l'odorat ont beaucoup pesé sur les travaux des scientifiques, qui n'étudiaient pas beaucoup l'odorat, ils étudiaient plutôt les autres sens, la vue et l'ouïe, qui passent prioritairement pour les sens nobles intellectuels, et l'odorat était resté de côté. Mais depuis les années 70, il y a une réhabilitation de la sensibilité, de l'affectivité, qui profite à l'odorat, parce que l'odorat apparaît comme un sens très lié aux émotions, et donc c'est une des raisons aussi de son exclusion et de sa condamnation. Mais la réhabilitation des émotions, de l'affectivité, a profité à ce sens qui est très lié, comme je vous le disais, à l'émotion. Et donc, aujourd'hui, il intéresse énormément. Vous avez parlé du marketing. Le marketing, en fait, c'est chou gras.
Exactement. On va le développer d'ailleurs avec Didier Bonvin. On le comprend, l'odorat, c'est tendance. Aujourd'hui, ça n'a
très
pas
tendance.
Été le cas. Vous nous le rappeliez. D'ailleurs, quand vous avez, vous, soutenu votre thèse dans les années 80, on vous regardait un peu de travers.
Hein. Absolument. On considérait que c'était pas un sujet intéressant. Et donc, quand j'ai soutenu ma thèse en 1988, il y avait très peu de choses sur l'odorat, le parfum, les odeurs. Et c'était un sujet qui était un peu tabou, parce que l'odorat est très lié à la sexualité. Hein. C'est vrai que c'est un sens très, très, très lié à la sexualité.
Et vous l'avez, vous, remis un peu en lumière,
oui,
si on reparle de l'odorat aujourd'hui.
Exactement.
C'est un peu grâce à vous.
J'ai fait partie des premiers chercheurs, avec des gens comme Alain Corbin, Piero Camporesi, qui ont réhabilité ce sens, montré toute son importance dans la communication. Je peux pas le blairer, je peux pas le piffer, je peux pas le sentir. Montré toute son importance dans la médecine. Et aujourd'hui, le parfum est à l'honneur dans la pharmacopée, alors qu'il a été complètement exclu. Pendant des siècles, on s'est soigné avec des parfums. De l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, on s'est soigné avec des parfums. Et depuis l'arrivée de la chimie, la pharmacopée a abandonné les parfums. Mais aujourd'hui, ça revient avec les huiles essentielles et l'aromathérapie, l'olfactothérapie.
Et on va détailler tout ça hôpitaux. Avec Sarah Dirène dans quelques instants. Mais on va d'abord reparler du marketing, parce que si l'odorat sort aujourd'hui de l'ombre, Didier Bonvin, c'est notamment grâce au marketing.
Oui, comme l'a souligné brillamment notre invité, le marketing olfactif est une tendance. On parfume un lieu de vente pour décontracter le client et son porte-monnaie. Des enseignes comme Lush ou Nature et Découverte diffusent ainsi leur propre parfum spécifique. Le but, c'est que le client s'y sente bien et ramène un peu de cette senteur chez lui en achetant un objet parfaitement inutile. Mais une fois à la maison, ça ne sent plus comme dans le magasin. Alors la majorité des consommateurs soulignent qu'il est probable qu'ils restent plus longtemps dans un magasin s'ils apprécient la musique, les visuels et l'olfactif. Ils disent aussi avoir été affectés positivement par des senteurs dans des lieux de vente. Alors pas besoin de longues études marketing pour se rendre compte que si ça pue dans un lieu, on a plutôt envie de partir. Parmi les effets voulus par le marketing olfactif, on veut créer un sentiment de bien-être, de bonne humeur. On travaille sur l'odeur pour marquer son territoire, comme les animaux, mais avec une meilleure odeur cette fois. Et ça marche, l'odeur a le pouvoir de mettre le client dans un espèce d'état d'hypnose, puisque un parfum pénètre directement dans la région du cerveau liée aux émotions, on verra ça tout à l'heure. En Suisse, Globus diffuse d'ailleurs deux parfums d'ambiance dans ses boutiques, un pour les hommes, un pour les femmes, rien pour l'instant pour les LGBTQXYZ. Même les hôtels comme le Four Seasons des Bergs à Genève a sa propre identité olfactive avec la senteur d'une bougie spécifique. La ville de Lausanne avait même tenté en 2013 de devenir la première ville parfumée au monde. Une initiative de la Fondation pour le commerce lausannois sans suite puisque les tests ont montré les difficultés de diffuser du parfum dans un espace ouvert.
Bon, on l'entend, Annick Le Guerrier, tous les secteurs s'y mettent à ce marketing olfactif, cette signature olfactive, je le disais en introduction, même un journal comme Le Temps, journal de référence ici en Suisse, a développé la sienne. C'est quoi l'intérêt au fond d'un journal d'avoir sa signature olfactive ?
Eh bien, on reconnaît directement le journal grâce à l'odeur, parce que l'odeur, on l'oublie jamais. Et donc, on identifie tout de suite quelque chose et ça laisse des traces. Quand on sent l'odeur, on pense tout de suite au temps. Et c'est une très bonne chose parce que ça donne un petit plus sur les autres journaux.
Il n'y a pas un côté gadget dans tout ça ?
Écoutez, on peut toujours trouver un côté gadget, mais en ce qui concerne le lien à la mémoire, il est puissant. Mmh. Et ça, c'est pas gadget, parce que les gens se souviennent du journal Le Temps grâce à l'odeur. Et ça, c'est pas gadget du tout. Comme le disait monsieur, le rapport de l'odorat aux émotions est très important, mais aussi à la mémoire. Et donc, l'odeur qui est diffusée par le temps nous émeut et aussi agit sur notre mémoire et donc on se souvient bien du journal.
Est-ce que ce marketing olfactif qui se diffuse un peu partout aujourd'hui, il nous aide à mieux nous servir de notre nez, à mieux sentir, à éveiller notre odorat finalement, Annick Le Guerrier ?
Pas vraiment, mais en tout cas, il nous rend attentifs aux odeurs. En ce qui concerne l'odorat, il faut évidemment une éducation olfactive qui commence à se mettre en place alors qu'elle était complètement abandonnée, voire même réprimée. Pendant des siècles, l'éducation de l'odorat a été réprimée. On n'apprenait pas aux enfants à sentir, loin de là. Mais aujourd'hui, il y a des cours d'éveil olfactif qui se mettent en place dans les écoles. Il y a une association en France qui s'appelle Nez en Herbe qui apprend aux tout petits, dès la crèche, à sentir les odeurs. Et donc cette éducation olfactive, elle est primordiale pour l'éducation de l'odorat et permet aux humains de bien discerner les odeurs, ce qui a des impacts sur l'alimentation notamment. Parce que lorsqu'on discerne les odeurs, on s'alimente mieux. Certains traitements des troubles alimentaires utilisent justement l'éducation de l'odorat pour permettre aux gens d'avoir un sentiment de satiété plus rapidement, vous voyez. Et donc ça, c'est très très important, l'éducation olfactive.
Donc une éducation olfactive qui se développe. Du côté de la science, Sarah, l'odorat, ça reste encore un peu le parent pauvre.
Oui, même si c'est en train vraiment de changer. Aujourd'hui, moins de 1000 scientifiques dans le monde s'intéressent véritablement à ce sens, pourtant vital pour de nombreuses espèces. De la bactérie à la baleine, il est en effet capital de sentir les molécules chimiques qui les environnent, sentir pour se reproduire, échapper aux prédateurs, se nourrir. Il y a effectivement peu de publications scientifiques autour de l'odorat. Environ 24 000, c'est rien hein, par rapport aux autres sens. Mais effectivement, c'est en train de changer. La preuve, le Centre Suisse des Sciences Affectives propose jusqu'à fin février prochain au Musée de la Main à Lausanne une exposition remarquable, vraiment, faut pas y aller si vous êtes enrhumé, flair et émotion autour de leurs recherches sur les odeurs, puisque, on l'a dit plusieurs fois, c'est un bon outil l'odeur, hein, pour déclencher les émotions. Alors, il faut aussi préciser une chose par rapport à la science, c'est que la science de l'olfaction est une science jeune, ce n'est qu'au début des années 90 que nos récepteurs olfactifs ont été découverts. Ça a valu du reste un prix Nobel à Linda Buck en 2004. Des récepteurs olfactifs, nous en possédons 400 gènes sur les 20 000 de notre génome sont entièrement dévolu à l'odorat. 400, c'est énorme hein, en comparaison à la vue. La vue, c'est 3 gènes uniquement. Ah oui. Alors, cette découverte a bien sûr ouvert de nombreux champs de recherche en sciences de l'olfaction. On sait désormais que les spermatozoïdes ont des récepteurs olfactifs qui vont les guider vers l'ovule, par exemple. Alors, c'est pas simple non plus, Yann, hein, de monter des protocoles expérimentaux en neurosciences avec des auteurs, des odeurs tout bêtement. Eh bien, pour des raisons techniques, hein. Lorsque vous êtes dans un IRM, par exemple, c'est facile d'envoyer une odeur. En revanche, de la retirer pour qu'elle ne contamine pas l'odeur qui suit, ben, ça, c'est diablement compliqué.
Et que se passe-t-il, Sarah, lorsque nous sentons?
Eh bien, une molécule arrive dans notre nez, là, dans le mucus nasal se trouvent des millions de neurones olfactifs, plus de 50 millions de neurones qui meurent et naissent chaque jour, et qui transforment le message chimique en un message nerveux compréhensible, justement, pour notre cerveau. Alors, même si nous ne sommes pas capables de nommer chaque odeur, nous sommes capables de distinguer des milliards d'effluves différentes.
Donc ça, pas de doute, énorme. Nous sommes des êtres d'olfaction. Est-ce que c'est valable aussi pour les phéromones?
Ah, les fameuses molécules qui induisent immédiatement une réponse de l'organisme chez la plupart des animaux, action-réaction. Eh bien non. Nous humains avons perdu au cours de l'évolution l'organe voméronasal hein, qui aurait permis par exemple, à l'instar de certains papillons, de trouver l'âme sœur 10 km plus loin. Donc vous l'aurez compris, hein, inutile de vous asperger de ces parfums aux phéromones relativement cher tout de même, censé attirer de beaux mâles et de splendides de femelles.
Annick Le Guerrer, Sarah Dirène nous le dit, nous ne sommes pas menés par le bout du nez. En revanche, est-ce qu'il y a des odeurs qui peuvent nous faire tourner la tête dans un sens comme dans un autre?
Ah oui, les psychiatres parlent des coups de foudre olfactifs. Il y a des coups de foudre olfactifs célèbres, mais comme le disait madame, en effet, nous ne sommes pas déterminés par les phéromones. Les phéromones n'induisent pas des comportements sexuels absolument irrémédiables. Alors, les coups de foudre olfactifs sans doute existent parce que les odeurs jouent un très grand rôle dans la sexualité. Freud l'avait bien d'ailleurs relevé, c'est une des raisons pour lesquelles il mettait l'odorat de côté dans l'éducation des humains, parce que un odorat trop développé ne permettrait pas aux humains d'avoir une vie sociale. L'odorat passe pour un sens antisocial justement, parce que nous portons trop à des débordements sexuels et aussi un sens antisocial parce que les odeurs de nos congénères peuvent aussi bien nous attirer que beaucoup nous gêner.
Qu'est-ce qui fait au fond qu'on aime ou qu'on déteste une odeur?
Ben, on aime une odeur les odeurs qui passent pour agréables, normalement, sont du côté du sucré, du fleuri, et les odeurs désagréables, on trouve ça dans toutes les cultures, sont du côté du pourri. Et le tout jeune enfant, avant même qu'il ait une éducation concernant les odeurs, le bébé se détourne des odeurs de soufre et de pourri.
Ça, c'est universel et presque instinctif.
Voilà, c'est ouais. Instinctif. Et se tourne vers les odeurs de vanille. Donc, il y a là quelque chose d'instinctif, comme vous le relevez exactement. C'est tout à fait ça.
Alors l'odorat, ce sens longtemps oublié, caché, négligé, qui revient au centre de l'intention. On parle de ce retour du nez ce matin dans l'époque sur la première jusqu'à 9h avec notre invitée Annick Le Guerrer, anthropologue, historienne, philosophe, grande spécialiste de l'odorat et du parfum. Les odeurs, Sarah Dirène, qui peuvent aussi nous faire du bien et même nous soigner.
Oui, alors des effluves de lavande, de camomille ou de mélisse peuvent nous apaiser. Des parfums, notes sucrées, vanillées, peuvent nous rassurer. L'aromathérapie est même présente dans les salles de sport. La menthe poivrée, hein, un excellent stimulant. Alors plus surprenant, les odeurs sont utilisées dans certains hôpitaux pour aider les patients à retrouver la mémoire et le langage. On parle ici de thérapie olfactive destinée, donc cette thérapie, aux grands traumatisés crâniens ou aux personnes ayant subi un AVC. Le principe est de soumettre le patient à des odeurs autobiographiques, hein, l'odeur du pain, du bois ou pourquoi pas de la salle de classe de son enfance. L'odeur va raviver un souvenir, déclencher une émotion. En fait, contrairement aux autres sens, l'odeur ne passe pas par les airs, allez, on va le dire, de la rationalité. Hein. L'odeur va directement au système limbique, siège de nos émotions. Et il arrive, me confier un médecin, qu'un patient privé de langage depuis des mois sorte de son mutisme en sentant l'odeur de la forêt. Alors, thérapie olfactive fascinante et prometteuse, vous en conviendrez, tout comme la détection des maladies par les chiens. Les chiens sont dressés à l'instar de ceux de la police pour détecter des explosifs ou des drogues. Eh bien, ils sont dressés pour détecter, par exemple, le cancer du sein. Alors, une technique qui pourrait remplacer la mammographie. D'autres cancers peuvent être détectés. Cancer de la prostate, par exemple. Alors, dans ce cas-ci, c'est l'urine que le chien reniflera. En fait, chaque cancer ou maladie possède ses biomarqueurs spécifiques, sa signature olfactive. Il semble même que les chiens soient capables, en tout cas en mesure, d'anticiper une crise d'épilepsie une vingtaine de minutes avant qu'elle ne survienne. Idem pour certains diabètes. Alors, c'est un champ de recherche en plein essor, non seulement du côté canin, mais aussi en bio-ingénierie, car du moment que les biomarqueurs d'une maladie sont connus, eh bien, il est possible de fabriquer des bionés électroniques en mesure aussi capable de détecter des molécules volatiles de toutes sortes.
Annick Le Guerrer, on a encore beaucoup à apprendre en matière de soins, de thérapie liée à l'odorat.
Absolument. Vous savez, madame, là, on a très très bien parlé, mais Hippocrate, 5 siècles avant Jésus-Christ, le grand médecin Hippocrate disait que l'homme devait être, que le médecin devait être l'homme aux narines bien mouchées. Et les médecins reconnaissaient les odeurs avec leur odorat. Et ce diagnostic olfactif a disparu avec l'arrivée de la chimie, de la synthèse, et aujourd'hui ce sont les chiens qui font ça, et les nez artificiels, comme le disait madame. Mais le diagnostic olfactif est extrêmement important, et le parfum, conjointement, après le diagnostic olfactif, dès l'Antiquité égyptienne, servait à soigner les maladies. Et on a des formules de parfums thérapeutiques comme celui du kifi, qui remonte à 16 siècles avant Jésus-Christ. Le kifi servait à honorer les dieux, mais servait aussi, quand on l'avalait, à soigner les maladies pulmonaires, intestinales et hépatiques. Et il servait aussi, quand on le respirait, à détendre, comme le fait le vin, mais sans les effets de l'ivresse. Et tout au long des siècles, on s'est soigné avec des parfums. Et je vois aujourd'hui qu'au Pérou, qu'en Amazonie, les plantes aromatiques sont très très utilisées pour soigner les maladies. Les médecins, les chamans péruviens font des macérations de plantes aromatiques pour soigner les maladies. Aujourd'hui, on redécouvre l'aromathérapie qui avait été mise en lumière par Jean Valnet au XXe siècle, et ensuite par Gattefossé, mais il y a un courant très important de soins par les huiles essentielles dans les hôpitaux, dans les services d'oncologie, de soins palliatifs, même dans les prisons. On s'est servi des odeurs dans les prisons pour permettre aux prisonniers de se reconstruire en leur faisant sentir des odeurs qu'ils ne sentaient pas dans la prison. Évidemment, dans la prison, on sent pas les odeurs des sapins, du feu de bois, de la mer. Et il y avait une thérapeute qui s'appelait Marie-Thérèse Hénaud qui faisait sentir aux prisonniers toutes ces odeurs de la nature. Elle leur ouvrait des fenêtres olfactives, ce qui était pour eux, ce qui leur procurait un sentiment de liberté. Ça les apaisait, ça leur permettait de faire un certain travail sur eux. Donc, vous voyez, les odeurs sont extrêmement importantes. Madame a parlé aussi de l'importance des odeurs pour réveiller les mots chez les polytraumatisés qui ont perdu le sens du langage, parce qu'une odeur déclenchant une émotion permet justement de retrouver le mot. Donc tous ces courants-là coexistent aujourd'hui et se développent. L'olfactothérapie, l'aromathérapie, oui.
Pardon, et on va finir, Annick Le Guerre, parce qu'il faut qu'on avance ce tour d'horizon olfactif en s'intéressant à la culture qui, elle aussi, Didier Bonvin, réveille son nez.
Oui, les objets culturels ont-ils une odeur? Alors la question a été récemment explorée au musée du Louvre autour d'un projet inédit, la création de 8 parfums inspirés par des œuvres du musée. Alors si vous voulez sentir comme la Joconde, hein, il n'y a qu'un pas. Dans une boutique éphémère, les visiteurs peuvent emporter avec eux la senteur imaginée par 8 parfumeurs sur des œuvres de maître. Alors difficile de vous donner une odeur en radio, mais imaginez la Victoire de Samothrace sentirait un mélange de jasmin, de fleurs d'oranger, de roses et de magnolia, histoire de rappeler des paysages méditerranéens.
On la sent presque là dans ce studio. Des œuvres liées à l'odorat, c'est une première, Didier ?
Alors non, l'expérience a déjà été tentée par exemple au musée Tinguely de Bâle, qui avait du nez en 2015 déjà. L'exposition s'intitulait « Belle haleine, comme le faux parfum créé par Marcel Duchamp ». Elle était sous-titrée « L'odeur de l'art ». Contrairement à l'argent, l'art aurait une odeur. On se souvient aussi peut-être en 2013 de l'exposition « Odeur des Alpes » organisée à Schwitz. Voilà, ça vous rappelle quelque chose à notre invité.
Oui, Schwitz. Ouais. 2004. 2003.
Voilà, 2003. Pour l'occasion, le groupe des musées nationaux suisses et le parfumeur Givaudan avait créé l'identité olfactive du pays. Le visiteur pouvait le sentir grâce à des diffuseurs tout au long du musée. Fragrance délicate des plantes alpines, effluves des fermes d'alpage, de lait, de beurre, de fromage, de vieux bouc, odeur de bonbons Ricola, du chocolat et même odeur de l'armée suisse.
Ah oui, carrément.
Ouais, c'était pas celle du dortoir, mais la graisse à fusil et le camphre protégeant l'arme, l'uniforme dans l'armoire de chaque citoyen soldat. Et voilà pour l'odeur suisse.
Et l'expérience, Didier, de parfumer les objets culturels, elle a aussi été tentée dans d'autres domaines ?
Oui, dans le jeu vidéo, figurez-vous, c'est l'objet culturel le plus vendu au monde. On y simule parfaitement les deux sens principaux qu'on utilise un peu partout, la vue et l'ouïe. Alors pour ce qui est de l'odorat, on a tenté le coup avec des huiles chauffées par une connexion USB. Résultat pour le joueur, nausées et migraines. L'expérience a été abandonnée il y a quelques années avant d'être reprise maintenant dans le casque de réalité virtuelle de Facebook. Une extension à coller sous le casque, elle permet de ressentir l'herbe, le feu ou la jungle. Alors les premiers testeurs n'ont pas été convaincus. Hein. C'était pour eux comme de se coller le nez à un arbre à parfum de voiture par un jour de canicule. Hein. Ça fait pas envie.
Effectivement. Annick Le Guerrer, est-ce que l'odorat, il a aujourd'hui toute sa place dans la culture, dans l'art ?
Et justement, dans l'art, c'est très intéressant parce que les philosophes avaient déclaré que l'odorat était incapable de donner naissance à un art. Et aujourd'hui, les artistes font appel à l'odorat dans de nombreux domaines. Vous avez parlé des expositions. Schwitz a été la première exposition à faire appel aux odeurs. Vous parlez de la peinture. Laura Tonato, il y a déjà 25 ans, a fait appel aux odeurs. Le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg lui avait demandé d'illustrer olfactivement un de ses célèbres tableaux, Le joueur de lutte de Caravage. Donc vous voyez, la peinture y fait appel. La sculpture, Ernesto Neto, le sculpteur brésilien Ernesto Neto, élabore des sculptures bourrées de matière odorante, des épices, etc. Le théâtre fait appel aux odeurs. Donc tous les domaines de l'art font appel aux odeurs.
Tous les champs de la culture. Dernière question, Annick Le Guerrer, pour finir cette discussion. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des limites à ce réveil de l'odorat ? Est-ce qu'il y a encore des sphères dans lesquelles le nez reste fermé par convention, par norme, par tabou ?
Je n'en vois pas pour l'instant. Je trouve qu'il y a une ouverture formidable à l'olfactif. Et c'est une belle revanche pour ce sens qui a été très très maltraité pendant des siècles en Occident.
Une revanche pour l'odorat. On va finir avec ces mots de conclusion. Merci beaucoup, Annick Le Guerrer, anthropologue, historienne, philosophe de l'odorat et du parfum. Je rappelle notamment votre ouvrage « Le parfum des origines à nos jours », paru aux éditions Odile Jacob. Merci à vous, merci à Didier Bonvin et à Sarah Diren d'avoir chroniqué cette époque odorante. Ouvrez grand vos narines et respirez bien le week-end.